À Louise Collet, Croisset, vendredi soir, minuit, 7 avril 1854. Je viens de recopier au net tout ce que j'ai fait depuis le jour de l'an, ou pour mieux dire, depuis le milieu de février, puisqu'à mon retour de Paris, j'ai tout brûlé. Cela fait 13 pages, ni plus ni moins. 13 pages en 7 semaines. Enfin, elles sont faites, je crois, et aussi parfaites qu'il m'est possible. Je n'ai plus que 2 ou 3 répétitions du même mot à enlever et 2 coupes trop pareilles à casser. Voilà enfin quelque chose de fini. C'était un dur passage. Il fallait amener insensiblement le lecteur de la psychologie à l'action, sans qu'il s'en aperçoive. Je vais entrer maintenant dans la partie dramatique et mouvementée. Encore 2 ou 3 grands mouvements et j'apercevrai la fin. Au mois de juillet ou d'août, j'espère entamer le dénouement. Que de mal j'aurais eu, mon Dieu, que de mal! Que d'échignements et de découragements! J'ai hier passé toute ma soirée à me livrer à une chirurgie furieuse. J'étudie la théorie des pieds beaux. J'ai dévoré en 3 heures tout un volume de cette intéressante littérature et pris des notes. Il y avait là de bien belles phrases. Le sein de la mère est un sanctuaire impénétrable et mystérieux où, etc. Belle étude du reste. Que ne suis-je jeune ? Comme je travaillerai ! Il faudrait tout connaître pour écrire. Tout ce temps que nous sommes écrivassiers, nous avons une ignorance monstrueuse. Et pourtant, comme tout cela fournirait des idées, des comparaisons, la moelle nous manque généralement. Les livres, d'où ont découlé les littératures entières, comme Homère, Rabelais, sont des encyclopédies de leur époque. Ils savaient tout, ces bonnes gens-là. Et nous, nous ne savons rien. Il y a dans la poétique de Ronsard un curieux précepte. Il recommande aux poètes de s'instruire dans les arts et métiers, forgeron, orfèvre, serrurier, etc., pour y puiser des métaphores. C'est là ce qui vous fait en effet une langue riche et variée. Il faut que les phrases s'agitent dans un livre, comme les feuilles dans une forêt, toutes dissemblables en leur ressemblance. Je relis de l'histoire grecque pour le cours que je fais à ma nièce. Hier, le combat des Thermopyles dans Hérodote m'a transporté comme à 12 ans. Ce qui prouve la candeur de mon âme, quoi qu'on en dise. À Louise Collet, Croisset, mardi, minuit, 18 avril 1854. Tu me verras dans 3 semaines ou plus tard. Je n'ai plus, d'ici à mon départ, que 5 ou 6 pages à faire, et de plus 7 ou 8 à moitié ou aux 2/3 faites. Je patauge en plein dans la chirurgie. J'ai été aujourd'hui à Rouen exprès chez mon frère, avec qui j'ai longuement causé anatomie du pied et pathologie des pieds beaux. Je me suis aperçu que je me foutais dans la blouse, si l'on peut s'exprimer ainsi. Ma science acquise de fraîche date n'était pas solide de base. J'avais fait une chose très comique. Le plus joli mouvement de style qu'il fût possible de voir et que j'ai pleuré pendant 2 heures. Mais c'était de la fantaisie pure, et j'inventais des choses inouïes. Il en faut donc rabattre, changer, refondre. Cela n'est pas facile que de rendre littéraire et gai des détails techniques, tout en les gardant précis. Ah, les aurais-je connus, les affres du style ! Au reste, tout maintenant m'est montagne. Bouillet n'a pas été mécontent de ce que je lui ai lu. J'ai fait, je crois, un grand pas, à savoir la transition insensible de la partie psychologique à la dramatique. Maintenant, je vais entrer dans l'action et mes passions vont être effectives. Je n'aurai plus autant de demi-teintes à ménager. Cela sera plus amusant, pour le lecteur du moins. Il faut qu'au mois de juillet, quand je reviendrai à Paris, j'ai commencé la fin. Puis j'y reviendrai au mois d'octobre pour prendre un logement. Qu'en arrivera-t-il donc ce bienheureux jour où j'écrirai le mot « fin » Il y aura en septembre prochain 3 ans que je suis sur ce livre. Cela est long, 3 ans passés sur la même idée, à écrire du même style, de ce style-là surtout, où ma personnalité est aussi absente que celle de l'empereur de la Chine, à vivre toujours avec les mêmes personnages, dans le même milieu, à se battre les flancs toujours pour la même illusion. À Louise Collet, Croisset, nuit de samedi, 1h, 22 avril 1854. Je suis toujours empêtré dans les pieds beaux. Mon cher frère m'a manqué cette semaine 2 rendez-vous et s'il ne vient pas demain, je serai encore forcé d'aller à Rouen. N'importe, cela avance. J'ai eu beaucoup de mal ces jours-ci relativement à un discours religieux. Ce que j'ai écrit est, dans ma conscience, d'une impiété rare. Ce que c'est que la différence d'époque. Si j'eusse vécu 100 ans plus tôt, quelle déclamation j'aurais mise là? Au lieu que je n'ai écrit qu'une exposition pure et presque littérale de ce qui a dû être. Nous sommes avant tout dans un siècle historique. Aussi faut-il raconter tout bonnement, mais raconter jusque dans l'âme. On ne dira jamais de moi ce qu'on dit de toi dans le sublime prospectus de la librairie nouvelle. Tous ces travaux concourent à ce but élevé, l'aspiration d'un meilleur avenir. Non, il ne faut chanter que pour chanter. Pourquoi l'océan remue-t-il? Quel est le but de la nature? Eh bien, je crois le but de l'humanité exactement le même. Cela est parce que cela est, et vous n'y ferez rien, braves gens. Nous tournons toujours dans le même cercle, nous roulons toujours le même rocher. N'était-on pas plus libre et plus intelligent du temps de Périclès que du temps de Napoléon III? Où as-tu vu que je perds le sens de certains sentiments que je n'éprouve pas? Et d'abord, je te ferai observer que je les éprouve. J'ai le cœur humain, et si je ne veux pas d'enfant à moi, c'est que je sens que je l'aurais trop paternel. J'aime ma petite nièce comme si elle était ma fille, et je m'en occupe assez activement pour prouver que ce ne sont point des phrases, mais que je sois écorché vif plutôt que d'exploiter cela en style. Je ne veux pas considérer l'art comme un déversoir à passion, comme un pot de chambre un peu plus propre qu'une simple causerie, qu'une confidence. Non, non, la poésie ne doit pas être l'écume du cœur. Cela n'est ni sérieux, ni bien. La personnalité sentimentale sera ce qui plus tard fera passer pour puéril et un peu niaise une bonne partie de la littérature contemporaine. Que de sentiments, que de sentiments, que de tendresse, que de larmes. Il n'y aura jamais eu de si braves gens. Il faut avoir, avant tout, du sang dans les phrases, et non de la lymphe. Et quand je dis du sang, c'est du cœur. Il faut que cela batte, que cela palpite, que cela émeuve. Il faut faire s'aimer les arbres et tressaillir les granits. On peut mettre un immense amour dans l'histoire d'un brin d'herbe. La fable des deux pigeons m'a toujours plus ému que tout Lamartine. Et ce n'est que le sujet. Mais si La Fontaine avait eu dépensé d'abord sa faculté aimante dans l'exposition de ses sentiments personnels, lui en serait-il resté suffisamment pour peindre l'amitié de deux oiseaux ? Prenons garde de dépenser en petite monnaie nos pièces d'or. Ton reproche est d'autant plus singulier que je fais un livre uniquement consacré à la peinture de ses sentiments que tu m'accuses de ne pas comprendre. Et j'ai lu ta pièce de vers 3 jours après avoir achevé un petit tableau où je représentais une mère caressant son enfant. À Louis Bouilhet, Croisset, dimanche soir, juin 1854. J'aurais pu venir plus tard, mais cela m'aurait remis trop loin pour mon travail et je ne serais pas venu du tout. Quand tu viendras ici au mois de septembre, j'espère te lire une bonne tartine. À Louis Bouilhet, Croisset, mercredi soir, 2 août 1854. J'ai lu 5 feuilletons du roman de Champfleury, Les bourgeois de Molinchard. Franchement, cela n'est pas effrayant. Il y a parité d'intention plutôt que de sujet et de caractère. Ceux du mari, de sa femme et de l'amant me semblent être très différents des miens. La femme m'a l'air d'être un ange. Et puis, quand il tombe dans la poésie, cela est fort restreint, sans développement, et passablement rococo d'expression. La seule chose embêtante, c'est un caractère de vieille fille dévote, ennemie de l'héroïne, sa belle-sœur, comme dans la Bovary, Madame Bovary mère, ennemie de sa bru. Et ce caractère dans Champfleury s'annonce très bien. Là est pour moi, jusqu'à présent, la plus grande ressemblance. Et ce caractère de vieille fille est bien mieux fait que celui de ma bonne femme, personnage fort secondaire du reste dans mon livre. Quant au style, pas fort, pas fort. N'importe, il est fâcheux que la Bovary ne puisse se publier maintenant. Enfin, qu'y faire ? J'ai relu Eugénie Grandet. Cela est réellement beau. Quelle différence avec le gars Champfleury ! À Louis Bouilhet, Croisset, lundi matin, 7 août 1854. J'ai été malade assez vertement pendant 8 jours. Salivation mercurielle des plus corsées, mon cher monsieur. Il m'était impossible de parler et de manger. Fièvre atroce, etc. Enfin, à force de purgation, de sangsues, de lavement, et grâce aussi à ma forte constitution, m'en voilà quitte. Je ne serais même pas étonné quand mon tubercule foutrait le camp par suite de cette inflammation, car il a déjà diminué de moitié. Au reste, merde, mon parti en est pris. Je suis las de passer tant de temps à soigner mon individu ou à y penser. Nous partons vers le 20 septembre. D'ici là, il faut que j'aie fini ma deuxième partie. Je n'ai guère de temps. En conséquence, je n'irai pas voir le grand homme Ricord, spécialiste des maladies vénériennes, avant 6 belles semaines d'ici. Et je vais continuer à me bourrer d'iodure. Tu penses bien qu'au milieu de tous ces mots, je n'ai rien fait. À Louis Bouillet, Croisset, jeudi matin, 10 août 1854. Il est maintenant 3h15 du matin. J'ai passé la nuit à la Bovary et je m'en vais réveiller ma mère qui part à 5h par le paquebot pour Trouville où elle doit rester 5 à 6 jours. Je serai seul tout ce temps-là et j'essaierai d'en profiter pour accélérer l'ouvrage. Il faut que j'avance quand même, car je suis là de ma lenteur. Voilà cependant 2 jours que je recommence un peu à travailler. J'ai lu 11 chapitres du roman de Champfleury. Cela me rassure de plus en plus. La conception et le ton sont fort différents. Personne autre que toi ou moi ne fera, je crois, le rapprochement. La seule chose pareille dans les 2 livres, c'est le milieu. Et encore. À Louis Bouillet, Croisset, jeudi soir, 17 août 1854. Ai-je gueulé ? J'ai relu tout haut Mélaénis presque entièrement. À propos de la scène du jardin, dans laquelle je ne suis pas bien sûr encore de n'être point tombé. À Louis Bouillet, Croisset, lundi, 16 octobre 1854. Je suis dans le feu des déménagements. Je travaille malgré cela et j'ai fait 4 pages depuis jeudi. C'est, je crois, un fier pathos. Mais je vais de l'avant, quitte à enlever après. Tâche pour notre gouverne ultérieure de savoir un peu comment Préau et Ferrat se sont conduits dans les affaires de la muse, ou plutôt ce qu'ils ont dit. Quant à elle, la muse, c'est fini. Nous pouvons dormir là-dessus. À Alfred Baudry, Paris, samedi soir, 17 mars 1855. Vous êtes le plus charmant homme et meilleur zig du monde. J'ai dévoré votre lettre qui me sert énormément depuis 10 jours. Je ne fais que l'arranger et vous retrouverez même plusieurs de vos phrases. Cela est superbe. Vous m'avez envoyé des détails excellents. Je vous aurais remercié de suite si je n'avais attendu la fin de mon esquisse pour voir la tournure que ça prendrait et vous adresser de rechef d'autres questions. Premièrement, ce qui indique sur le pavé la circonférence de la cloche d'Amboise, est-ce un disque ou un cercle ? J'ai écrit disque. Deuxièmement, de quel pays était Clodion, le peintre ? J'aurais besoin de savoir s'il était champenois, normand, provençal, etc., avec la date de sa naissance et celle de sa mort. Troisièmement, faites-moi une petite description de la chapelle où est la statue de Richard Cœur de Lion. Quatrièmement, idem de la tombe de l'archevêque Maurice. Où est-elle placée au juste ? Et comment est-elle ? Cinquièmement, grave. Des 2 tombeaux de Brézé, l'un, n'est-ce pas, est à cheval en dessus, et l'autre couché au-dessous. Cadavre tout nu et superbe. 1. Lequel est le père ? Lequel est le fils ? 2. Il y a des armoiries sur la housse du cheval. Quelles sont-elles ? 3. Les noms et les titres avec date de la naissance et de la mort de ces 2 messieurs. 4. Idem pour la mère qui pleure. 5. La nourrice ne doit pas avoir de nom. 6. Les d'Amboise. Pouvez-vous me donner des dates précises de leur naissance et de leur mort, avec les noms, titres, prénoms, etc. et quelques détails sur les sculptures. Il y a autour des personnages allégoriques. Ne sont-ce pas des vertus théologales? Septièmement, dans la cour des libraires, sur le portail, à droite, quand on entre par la rue Saint-Romain, n'y a-t-il pas un cochon jouant de la cornemuse ou quelque drôlerie pareille? Huitièmement, à propos des vitraux des corporations de métier, vous me dites trois vitraux bleus, l'un donné par les drapiers, l'autre par les marchands de poissons. Où est le troisième? Regardez dans le bas. Voici leurs emblèmes de corporation. Quels sont ces emblèmes? Voilà, je crois, à peu près tout ce que j'ai à vous demander, cher vieux. Je vous remercie mille fois de votre obligeance, et si bien que j'en abuse, comme vous voyez. Si vous pouviez me répondre promptement, vous mettriez le comble à vos bienfaits. Phrase de Prudhomme. À Louise Collet, Paris, 6 mars 1855. Madame, j'ai appris que vous vous étiez donné la peine de venir hier, dans la soirée, trois fois chez moi. Je n'y étais pas. Et dans la crainte des avanies qu'une telle persistance de votre part pourrait vous attirer de la mienne, le savoir-vivre m'engage à vous prévenir que je n'y serai jamais. J'ai l'honneur de vous saluer.